autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, amis auditeurs, pour partager une formidable aventure humaine, scientifique et animale, celle de notre invitée, Isabelle Fromentin, infirmière et docteur en sciences, spécialisée dans le traitement des plaies à l'Institut Curie, à l'origine du projet CADOG, ou comment dépister le cancer du sein grâce à l'odorologie canine, grâce au flair des chiens, capable de détecter des odeurs imperceptibles pour nous humains, d'être dressés, comme pour détecter de la drogue ou des explosifs, dressés pour dépister le cancer. Une découverte extraordinaire qui n'est pas le fruit du hasard, mais bien celui de l'engagement d'une soignante chercheuse dévouée au bien-être de ses patients, qui a exploré avec grande ouverture d'esprit, formidable persévérance et un flair à toute épreuve, toutes les pistes imaginables pour les soulager, ses patients. De Paris à Cotonou, Lomé ou Abidjan, des dispensaires de brousse à l'Institut Curie et jusque sur les bancs de l'université ou dans les centres de dressage canin, rencontre avec une infirmière pas comme les autres, qui a fait du soin le fil conducteur de son parcours autour de la question « Pourquoi des chiens pour détecter le cancer ?» Bienvenue. Bonjour Isabelle Fromentin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes infirmière et docteur en sciences à l'unité plaies, cicatrisation et recherche de l'Institut Curie à Paris. Une infirmière qui s'est faite chercheuse, c'est déjà assez rare pour le souligner, chercheuse et découvreuse à l'origine du projet CADOG, donc de dépistage du cancer du sein par l'odorologie canine. Mais ce n'est pas seulement le flair des chiens que vous avez mis en lumière pour dépister le cancer. Vous êtes aussi, Isabelle, à l'origine de pansements tout aussi révolutionnaires pour soulager les patients cancéreux, des terribles odeurs que peuvent dégager leurs plaies tumorales, les odeurs, le soin et le partage, toutes ces innovations en soins infirmiers avec ceux qui en ont le plus besoin sur Terre. On pourrait dire que ce sont les conducteurs de votre parcours hors du commun que vous racontez avec beaucoup d'humour en plus aux éditions de La Martinière. Dans ce livre intitulé « Blouse blanche et poils de chien » coécrit avec Sandra Kollender, sous-titré « Comment j'ai découvert l'odeur du cancer ». Le cancer a une odeur que nous ne pouvons pas percevoir, a priori nous humains, ou alors quand nous le percevons, c'est qu'il est dû à des odeurs pestilentielles, de plaies cancéreuses. Et c'est sur ces odeurs-là, sur ces plaies-là, à ces plaies-là, que vous avez voulu au départ chercher une parade. C'est ça, Isabelle?
Voilà, au départ, c'est vraiment, je fais en effet du soin de plaies. Hein, c'est vraiment une discipline en tant qu'infirmière. Et je travaille à l'Institut Curie, on soigne du cancer, donc les patients sont porteurs de plaies tumorales. Plaies tumorales, ça veut dire que le cancer, au lieu d'être à l'intérieur, il s'est extériorisé, il s'est ulcéré à la peau. On peut le voir dans deux situations, soit des patients qui vont tarder à se traiter pour différentes raisons, soit des récidives de cancer. Et ces plaies sont très malodorantes. Et moi, c'est un symptôme que j'ai eu envie d'explorer, ce qui n'était pas simple, parce qu'il faut décortiquer toutes les bactéries, les corréler avec l'odeur. L'odeur, c'est compliqué. C'est de la chimie, mais c'est aussi de la perception. Donc, d'emblée, ça mélangeait beaucoup de choses, mais c'est aussi ce qui en faisait quelque chose de passionnant. Et puis, il ne faut pas se leurrer, si c'était simple, de toute manière, on n'aurait pas ce problème depuis longtemps, a priori.
Et un problème qui est terrible pour les patients eux-mêmes, parce qu'en fait, du coup, ils sont quoi? Ils sont exclus de par leur odeur qui nous rappelle la mort, quoi, tout simplement. Hein.
Ils sont exclus, et puis ils s'isolent eux-mêmes, hein, parce qu'ils le sont eux-mêmes. Il hein. y a des idées qui, disons, ils s'habituent, on ne se sent plus. Oui, jusqu'à des certaines limites. Moi, maintenant que j'interroge plus systématiquement les patients, et mon équipe aussi, les patients perçoivent tout à fait et se plaignent tout à fait de cette odeur et la sentent. Donc eux-mêmes vont être gênés, parce qu'ils vont bien sentir qu'ils sentent mauvais. Et cette odeur, elle est incomprise, parce que vous pouvez avoir un malade qui a une plaie tumorale, mais qui marche, qui sort, qui va travailler, qui a des enfants, qui a une famille, qui va faire la cuisine, qui va avoir une bonne hygiène, et malgré tout, qui va sentir cette odeur particulière de ces plaies, qui est liée à des bactéries, et qui ressemble un peu à une odeur de cadavre. Donc, quand vous vous sentez ça, vous n'allez pas décortiquer « Ah, ça sent le cadavre, machin ». C'est votre tête qui dit « Va-t'en, ça sent mauvais ». C'est tout ce que vous percevez sans même vous en rendre compte. C'est pas, y a une fleur, j'aime bien cet exemple, parce que quand on dit cadavre, ça plombe un peu. Y a une grande fleur, le titan arum, qui est une des plus grandes fleurs. Elle a un joli nom, et pourtant tout le monde l'appelle fleur de cadavre, parce que sa floraison, elle sent aussi cette odeur-là, et ce qui fait que le plus souvent, on l'approche avec un masque, parce que c'est infernal. Donc comme quoi, instantanément, tout le monde a renommé cette plante du fait de cette odeur. Voilà, ben, le patient, il est un peu, ce patient-là, ça touche pas tout le monde quand même, il est un peu dans cette situation, et c'est injuste, hein. C'est déjà des gens malades, gravement malades, avec une plaie qu'il faut porter, qui coule, qui peut saigner, qui est désagréable, c'est un face-à-face avec la maladie pour les malades. Et en plus, cerise sur le gâteau, il y a ces odeurs et qui vont faire que tout le monde va un peu s'éloigner d'eux.
C'est ce qui vous a fait partir sur la piste des odeurs, qui vous a entraîné ensuite à découvrir comment les chiens pouvaient avoir le flair pour détecter le cancer bien avant. Quand il n'y a pas de plaie, bien sûr. Le soin, on l'a compris, c'est la source de votre parcours. Vous êtes infirmière toujours, même si vous êtes également chercheur. Vous avez également monté une consultation de soins infirmiers. Et puis vous êtes devenu donc docteur en sciences pour faire avancer cette odorologie canine, pour produire aussi ce pansement que vous avez réussi à mettre au point. Vous êtes retourné sur les bancs de l'université, rien ne vous arrête. Isabelle Fromentin, à ce sujet, une question pour vous, soulevée par le professeur Lionel Nakache, chercheur en neurosciences cognitives à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris.
Oui, moi je trouve que c'est un itinéraire qui est hors du commun, c'est-à-dire de passer du monde extrêmement expert d'infirmiers ou d'infirmières à celui de la recherche scientifique. Ce sont des parcours qui existent mais qui ne sont pas le lot commun. Donc la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui a été moteur dans cette transition? Est-ce que c'était le besoin de passer par la recherche pour confirmer une intuition de soignante que vous aviez au départ en tant qu'infirmière? Ou est-ce qu'au contraire, c'était un goût du questionnement qui allait au-delà du goût du soin qu'on a quand on exerce un métier de santé? Donc voilà, de faire la part des choses, qu'est-ce qui a été le moteur? Est-ce que c'était le fait de confirmer une intuition de soignante en passant par l'expertise de la recherche? Ou est-ce que c'était élargir le périmètre de son quotidien en passant de celui du soin à celui de la recherche qui n'est pas du tout le même univers?
Votre réponse, Isabelle Fromentin?
Eh bien, ni l'un ni l'autre. C'est l'échec. C'est l'échec. Vous savez, quand vous vous occupez de patients tous les jours, que vous faites du mieux que vous pouvez, que vous avez regardé les articles, vous avez été rencontré des gens, vous avez été en congrès, et vous espérez qu'avec tout ça et avec vos connaissances, vous allez réussir à faire des meilleurs soins pour que le patient soit mieux. Et malgré tout ça, ben, ça continue à pas aller. Qu'est-ce que vous faites? Ben, soit vous vous résignez, ben, j'ai fait du mieux que je peux, et malgré tout, j'arrive pas à canaliser ces symptômes locaux sur une plaie. Soit il y a un moyen qui s'appelle la recherche. Et moi, la recherche est venue vraiment comme un moyen de pouvoir trouver des nouvelles solutions pour améliorer les soins.
Avez effectivement, grâce à la recherche, trouvé des solutions. Vous avez mis au point un pansement qui fonctionne. Hein. C'est pas en rajoutant du parfum, on va pas s'arrêter là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment un pansement qui fonctionne, qui pense les plaies et qui fait du bien. Et du coup, c'est en allant sur cette piste des odeurs, en retournant à l'université, en travaillant avec des chercheurs pour essayer d'isoler les molécules odoriférantes, etc., que vous avez découvert cette piste canine. C'est-à-dire que le fait que les chiens, on le savait, ils ont du flair, ils sont plus que nous, et ils sont capables de détecter l'odeur du cancer, de dépister finalement, à la place d'une mammographie pour un cancer du sein. Il suffit, alors non pas d'approcher un chien, hein, c'est pas ça du tout, mais qu'est-ce que vous avez découvert et comment on fait?
Alors, on va reprendre. En effet, il a fallu que j'analyse les odeurs, donc les composés volatiles odorants. Hein. Une odeur, c'est plein de petites molécules qui forment un bouquet que nous, on appelle odeur. Mais, donc moi, je décortiquais ces petits composés volatiles odorants pour mon pansement. Et il y avait quelques composés volatiles qui restaient en suspens, que j'arrivais pas à relier à des bactéries ou au métabolisme. Et d'où l'hypothèse, avec les chimistes, que c'était peut-être craché par la tumeur elle-même. Donc ça veut dire qu'on peut en faire quelque chose, que peut-être dans ce cas-là, ça peut servir de marqueur, de biomarqueur. Ouais, ok. Alors, quand on a dit ça, c'est bien beau, mais on a quelques composés volatiles, on a une hypothèse, et on ne sait pas bien quoi en faire et par où prendre le problème. Donc dans ce cas-là, on se plonge dans la littérature scientifique pour voir si d'autres ont les mêmes hypothèses. Alors là, c'était intéressant, j'étais en fin de thèse en 2012 et j'ai vu que d'autres commençaient à se poser cette question, ce qui est rassurant.
Est-ce qu'il y a une odeur au cancer? Enfin, pour le dire très précisément,
alors, c'est pas tout à fait ça. Alors, c'est pas tellement des odeurs, c'est des composés volatiles odorants.
Liés
au métabolisme de la tumeur elle-même. Voilà. Mais on ne les connaît pas, ces composés volatiles. Alors, il y en a qui essayent à l'heure actuelle, de les trouver par la chimie. Il y a une très bonne équipe en Israël qui travaille là-dessus depuis des années. Il y avait un autre moyen qui, là encore avec des expériences, mais relatées dans la littérature scientifique, de chiens, qui permettait de faire la détection de maladies. Parce qu'il n'y a pas que le cancer, hein. Il y a des équipes là, qui travaillent sur l'hypoglycémie, sur l'épilepsie. Alors,
C'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas à caractériser ces composés volatiles, mais les chiens les sentent. C'est ça qui a été découvert. Hein.
Alors, ce qui est dur, c'est que, en effet, d'habitude, en recherche, on caractérise. Qu'est-ce qui exactement va donner ça? Là, le chien, vous ne savez pas exactement comment il se débrouille. Parce que vous avez ses odeurs, mais vous en avez plein d'autres. Et très très variables d'une personne à l'autre. Vous et moi, on n'a pas la même odeur. Donc même si à un moment, on a une tumeur qui sera en plus pas forcément similaire, vous imaginez bien le bazar pour s'y retrouver dans des choses avec un seuil de perception si bas. Voilà. Et ça a été tout l'enjeu au départ, c'est de dire, on voudrait faire une preuve de concept, une étude préliminaire pour voir si ce concept semble tenir la route. Et démarrer un projet avec cette originalité du chien, qui en effet, comme vous l'avez dit, vous avez raison, il n'y a pas de contact entre la personne et le chien, c'est-à-dire qu'il y a une compresse qui est posée sur le sein de la patiente ou du volontaire sain, hein, parce que quand vous éduquez, il faut faire le comparatif entre les deux. Et c'est la sueur que le chien va renifler sur cette compresse, pas sur la femme. Donc, vous imaginez le truc un peu dingue, hein, de la sueur, une compresse, et le chien, après, qui va sentir cette compresse et dire cancer ou pas cancer.
Ça fait un peu beaucoup, hein. Il y a un chien, il y a de la sueur, il faut faire des tests, vous êtes en plus infirmière au départ. Il y avait quand même pas mal d'obstacles, on va dire. Vous avez pourtant relevé le défi. Aujourd'hui, CADOG, c'est un projet qui est véritablement testé. Des chiens sont dressés. À le retour de la question, comment dresser des chiens, justement, à détecter l'odeur du cancer, je propose un extrait du reportage réalisé sur RFI par Valérie Cohen avec Didier Valentin, que vous connaissez.
Oui,
Isabelle. Voilà. Alors, on dit
cynophiles, donc cynophiles. On dit les cynos. C'est vraiment ceux qui font de la détection.
Allez, hein. Dresseur de chiens, on va le dire aussi comme ça, avec qui vous travaillez. C'est un ancien militaire qui a notamment dressé des chiens pour la recherche d'explosifs et de stupéfiants. Didier Valentin s'occupe actuellement du dressage de Milou, un Springer spaniel de 2 ans qui est sur la couverture de votre livre, sélectionné pour son sens de l'olfaction. On l'écoute.
Voilà, c'est bien ça. Ouais, voilà. T'es content, hein? Voilà, c'est bien ça. Milou, c'est un Springer spaniel de 2 ans, hein, qui est né ici à l'élevage et qui maintenant travaille sur le projet CADOG depuis le mois d'octobre. Voilà. Et donc, on a commencé tout doucement sur des petites recherches à la balle, et puis on l'a amené d'abord sur des boîtes de mémorisation, et puis il est très vite arrivé sur les cônes. Avec un échantillon, puis 2, puis 3, puis maintenant il est sur 4 échantillons, dont 3 négatifs, 1 positif. L'étape d'après, ça va être de travailler ce que nous, dans le jargon, on appelle les blancs. C'est-à-dire une série de 4 échantillons où il n'y aura pas de positif. Et donc là, le chien, de lui-même, il devra faire les 4 cônes et dire... Eh ben non, il n'y a rien. Et revenir, s'asseoir sur un tapis, où là, il aura sa récompense. Allez, viens au pied. Pas bouger.
Assis. Allez, tu cherches.
C'est bien ça, ouais, voilà, ouais. Ça, c'est bien ça. Hein. Après une découverte, voilà, on fait un petit peu jouer pour le récompenser. Voilà.
Il l'a trouvé tout de suite, quelques secondes.
Voilà, oui, bah oui. Voilà, il passe sur les cônes, il s'arrête sur le... Là, c'était en position 4. Donc sur le 4e cône, il s'assoit, vous avez vu, il s'assoit tout de suite.
Milou a du flair pour détecter l'échantillon porteur d'une tumeur cancéreuse ou pour détecter l'échantillon qui serait sain, donc qui ne serait pas porteur de tumeur cancéreuse. On l'a dit, c'est ce chien qui fait la une de votre ouvrage, Blouse blanche et poil de chien, Isabelle Fromentin. Alors les chiens, on l'a dit, n'approchent pas les malades. C'est compliqué de les éduquer. C'est certaines races de chiens qui ont la capacité de détecter, de dépister une tumeur cancéreuse qui ne se voit pas.
Alors, je vais vous répéter ce que j'ai appris de... Il y a Didier, on s'appuie beaucoup évidemment sur notre sino, mais aussi sur des vétérinaires et vétérinaires chercheurs. Et on a Caroline Gilbert qui est éthologue qui nous aide beaucoup. Donc évidemment, c'est des chiens généralement avec des longs nez, hein, pas des nez écrasés. Il faut que ça soit des chiens qui soient joueurs, parce que pour eux, nous on parle travail, eux ils parlent jeu.
Oui, il y a une des questions posées par nos auditeurs sur les réseaux sociaux. Les chiens, ils apprécient pas cette odeur-là, c'est pas ça. Pour eux, ils ont été dressés, et pour eux c'est ni bien ni mal cette odeur.
Ah, c'est ni bien ni mal. Eux, alors là, on n'est pas du tout dans la plaie qui sent mauvais. Hein. Là, on est dans une odeur, je peux pas vous dire ce que ça sent, puisque nous, on n'arrive pas du tout à sentir. Ça a rien de désagréable. C'est juste que lui, il doit chercher, et s'il cherche, il a une récompense, et c'est un jeu. Hein, donc c'est
donc
des chiens.
Il est content quand il trouve l'odeur qu'il faut.
Ouais, et surtout content d'avoir sa récompense.
Bien sûr.
Qu'il a soit une croquette, soit la balle, soit un petit bout de saucisse. Voilà, lui, son truc, c'est d'avoir sa récompense quand même. Hein.
Isabelle Fromentin.
Alors, il n'y a pas que Milou. Hein. Je vous dis, il y a aussi Nikios. Nikios, c'est un berger malinois. Donc berger malinois, c'est les chiens qui font le plus souvent le travail de détection. C'est ceux qu'on va retrouver...
Ils ressemblent à des bergers, c'est des bergers allemands qu'on retrouve pour détecter les explosifs.
Voilà, en plus maigre, vous voyez. C'est ce qu'on voit en effet pour les explosifs chez les pompiers, pas mal en gendarmerie aussi, enfin voilà, dans les aéroports.
Mais il a fallu aussi, on se rend compte, vous le dites dans votre livre, que c'est évidemment un travail d'équipe extraordinaire entre l'infirmière qui, au départ, a cette intuition, puis ensuite il faut le vérifier avec des chimistes, avec une équipe de
il y a les médecins,
c'est vraiment
il y a même toute l'équipe infirmière, parce que vous voyez c'est bien beau, mais pour qu'il y ait des volontaires, ben, faut que l'infirmière propose et explique, que le patient ramène son échantillon. C'est toute une chaîne humaine,
parce qu'il a fallu évidemment des patients qui étaient malades, des patienteux, puisqu'il s'agit de cancer du sein, mais il fallait aussi des échantillons sains pour que les chiens puissent faire la différence et être éduqués.
C'est ça qui est génial, et c'est pour ça que souvent, CADOG, on parle de projet citoyen et on parle de collectif autour de ce projet de recherche.
Financement citoyen aussi.
Financement citoyen aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus émouvant que de voir les volontaires qui viennent spontanément et qui viennent rapporter leurs échantillons à Curie. C'est Madame Tout-le-Monde qui va prendre. Alors, en effet, on peut dire que ce n'est pas très contraignant. On demande aux volontaires de dormir
une nuit
avec la compresse. Mais il faut le faire. Là. En plus, on n'avait pas les envois par courrier. Il faut venir chercher les kits. Il faut les ramener. Et voilà, il y a des gens que je ne reverrai jamais, que je vois juste à l'accueil de Curie, qui viennent apporter leur kit, qui viennent nous souhaiter bon courage. Et ça, c'est extra, parce que c'est une richesse incroyable. On ne ferait rien sans ces prélèvements.
Hein. On ne ferait rien autour de la question pourquoi des chiens pour détecter et dépister le cancer, ce fléau contre lequel on peut faire quelque chose et contre lequel vous luttez au quotidien. On écoute Stromae sur RFI, Cancer sur RFI.
Mais oui, on se connaît bien. T'as même voulu te faire ma mère, hein. T'as commencé par ses seins, et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Enfants, décidément rien ne t'arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les paquets de cigarettes. Fumais-tu? Tu m'étonnes, mais tu m'aides. Cancer, dis-moi cancer, cancer, cancer. Qui est le prochain cancer?
que tu pars en vacances. Quand c'est, quand est-ce que tu y penses? Quand c'est, ça nous fera des vacances. Quand c'est,
Cancer, Stromae sur RFI. Autour de la question, comment des chiens peuvent détecter l'odeur du cancer. Nous suivons le parcours hors du commun de notre invitée, l'infirmière et chercheuse Isabelle Fromentin, à l'origine du projet CADOG de dépistage du cancer par l'odorologie canine. Quand les chiens deviennent auxiliaires de dépistage, on les savait auxiliaires de vie, formidables compagnons de recherche. À ce sujet, je propose d'écouter l'éclairage du lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des sapeurs-pompiers de Paris.
Le chien, c'est un formidable compagnon, hein, notamment pour le pompier, puisqu'il va nous permettre de rechercher des victimes qui sont ensevelies. C'est quand même assez fabuleux de voir un chien qui est capable de rechercher à plusieurs mètres sous terre et de détecter la présence humaine, plusieurs mètres sous terre ou en Seine. Hein, sous les eaux, on est capable de retrouver quelqu'un, en tout cas, de détecter la présence humaine. Quel odorat humain on est incapable de retrouver. Donc le chien entraîné est capable de sauver. À lui seul. Après, le chien est utilisé aussi par les policiers pour retrouver un certain nombre de substances, drogues ou autres. Le chien, je pense qu'on n'a pas encore fini de trouver toutes ses qualités. Vous parlez de cette qualité pour détecter une maladie, c'est quand même assez fabuleux, quoi. Ça, c'est vraiment un compagnon de l'homme assez extraordinaire.
Le chien est très fort pour détecter des explosifs, de la drogue. Isabelle Fromentin, quand il s'agit de détecter une odeur, enfin des composés volatiles qui indiquent qu'il y aurait une tumeur cancéreuse, c'est beaucoup plus compliqué, parce que c'est une odeur, vous l'avez, d'abord qui dépend de la personne aussi, et puis qui n'est pas stable, c'est ça ?
Bah, c'est pas stable, non. Ça va être différent d'une personne à l'autre. Ça peut être, c'est vraiment des seuils beaucoup plus bas. Et puis même pour l'entraînement du chien. Vous voyez, si vous êtes sur une odeur stable, après vous la planquez, vous mettez d'autres produits dessus pour que ça devienne plus difficile pour le chien. Mais il a toujours quelque chose de stable. Alors ça peut être différentes, compresses imbibées de différentes choses. Mais néanmoins, vous restez dans quelque chose de stable. Nous, on a l'odeur de la personne. On a des tumeurs qui sont toute petite, tout ça à travers la peau, donc déjà d'emblée il a l'écueil, donc c'est quand même, on sait, et c'est pour ça qu'on est prudent tant qu'on est en processus de recherche.
Oui, vous êtes en processus de recherche, ouais, en projet pour le moment.
On est en processus de recherche parce que vous voyez, il n'y a pas que... Quand on a fait l'étude préliminaire, on a fait des exercices simples, 3 négatifs, 1 positif. Ça ne leur a pas posé trop de soucis. Là, on sait très bien que dans une vie réelle, il va avoir plein de négatifs. Et le chien, ça peut être un peu décourageant pour lui d'avoir des séries où il n'a rien à trouver, même s'il apprend aussi à marquer qu'il n'a rien trouvé et qu'il est récompensé, bien entendu.
D'avoir trouvé le bon résultat, même s'il n'a rien trouvé, c'est
exactement.
Ça.
Mais pour lui, c'est un processus compliqué. On sait qu'on leur demande aussi une grande concentration. Donc, entre se concentrer sur une petite série de patients et ce qu'on va leur demander à l'avenir, on peut avoir aussi des surprises, hein. Vous voyez, entre je suis capable de, et je suis capable de le faire de façon répétée et reproductible sur une grande population, vous êtes un peu comme dans le médicament quand il marche bien en phase 1 et puis moins bien en phase 3. Vous voyez, donc il y a un enjeu, on est prudent, c'est de la recherche, on travaille beaucoup. Et ce qui est dur en ce moment, c'est de passer d'une technique, d'un savoir-faire que connaissent bien les cynos et qui se transmettent à un processus. La recherche, ça demande d'avoir un processus qui soit réplicable et qui puisse être répliqué par quelqu'un à l'autre bout du monde. Donc il faut que ça soit millimétré avec une variable qui est le chien lui-même. On ne peut pas millimétrer un chien qui aura son numéro. Je vais vous donner des petits exemples. Par exemple, au départ, on les faisait partir sur un test. Bah, très bien, premier, deuxième, troisième. Ça n'allait pas du tout, parce qu'il faut un petit échauffement. Mais comme nous, le matin, on va avoir quelquefois besoin de se mettre en jambe. Lui, il a besoin de se mettre en patte. Donc, bah, on l'a mis dans notre protocole. On fait d'abord trois tests, juste
pour rien.
Et puis après, soit le cyno pendant ces trois tests voit que le chien est bien à son travail, qu'il y est, dans ce cas ça continue. S'il n'y est pas, il arrête. Ça aussi, ça sera évalué, parce que si on l'arrête trop souvent, et on est obligé de reporter à l'après-midi ou au lendemain, ça induit aussi des choses. Donc tout ça, il faut que ça soit noté. Pareil, notre veto, Caroline, nous a dit, attention, à la fin, faites-lui faire, hors test et hors exercice, quelques petits exercices faciles à la fin, pour qu'il reste sur quelque chose de positif, parce que c'est mieux pour lui.
Alors, c'est vous voyez, toute la psychologie du chien lui-même. C'est, effectivement, le chien est bien loin d'être une machine, mais justement, ce qui vous a intéressé là-dedans, Isabelle Fromentin, non seulement c'est de persévérer, même quand envers et contre tout, et notamment au niveau des financements, ça n'est pas simple, et ça n'est toujours pas simple, mais ce qui vous intéresse, c'est parce que finalement, un chien n'est pas une machine, mais ça veut dire que ces pistes-là, elles pourraient servir dans des pays en voie de développement, où on n'a pas les moyens, il n'y a pas beaucoup d'accès aux soins, il n'y a pas d'accès aux mammographies. C'est ça aussi qui vous inspire particulièrement.
Oui, c'est ce qui m'a inspiré aussi pour le pansement, moi et toute mon équipe, hein, parce qu'on est tous sur la même thématique. C'est en effet, c'est d'avoir quelque chose pour tous. Et c'est une des raisons pour lesquelles on s'est orienté vers le chien, parce qu'on s'est dit, si ça marche, eh ben sans doute ça sera plus facile et accessible pour des pays à faible accès aux soins. Il ne faut pas oublier hein, qu'en France, vous avez un cancer du sein. Dans 9 cas sur 10, je ne dis pas que les traitements ne sont pas très lourds et pénibles. Hein. Ça, franchement, c'est difficile, mais vous allez vous en sortir. Dans des pays, vous tombez à 4 sur 10, 3 sur 10 de chance avec ce même cancer. Il y a quand même un grand gap et une grande injustice et ça tient beaucoup au diagnostic précoce de ces maladies.
Au départ, Isabelle Fromentin, vous le racontez dans ce livre, quand vous étiez petite, vous vouliez soigner la lèpre. Hein.
Ouais.
Donc les plaies, les blessures, et puis la question de l'inégalité des soins, c'est quelque chose qui vous occupe énormément, qui vous occupe toujours. Hein. Vous avez entamé une vraie collaboration avec certains hôpitaux qui travaillent notamment sur des pathologies tropicales négligées, particulièrement avec des plaies particulièrement nauséabondes comme ulcère de Buruli ou la lèpre. Et vous avez été du coup appelé par les médecins et soignants au Bénin pour un peu faire profiter de vos recherches pour les patients notamment atteints de la lèpre ou de l'ulcère de Buruli. Je propose d'écouter à ce sujet le témoignage du docteur Thierry Gâteau, que vous connaissez lui aussi, qui est actuellement à Pobé au Bénin, dans le centre de traitement et de prise en charge de ces deux maladies tropicales négligées que sont la lèpre et l'ulcère de Buruli. Alice Milo a réussi à le joindre par Skype. On l'écoute tout de suite.
Le vrai travail, c'est l'accompagnement de la plaie. À ce moment-là, on avait besoin un peu d'appui d'équipes spécialisées et l'équipe précédente de l'association a pris contact avec l'équipe d'Isabelle Fromentin à Paris pour dire comment vous pouvez nous aider à mieux prendre en charge ces plaies. Donc eux nous ont dirigés, nous ont orientés sur la qualité des soins, on a pu former le personnel à cela et on continue avec Isabelle Fromentin à voir comment on peut améliorer d'une manière simple, efficace, le suivi de ces plaies.
Isabelle Fromentin travaille aujourd'hui à ce projet CADOG. Est-ce que vous, d'une manière ou d'une autre, sur les sujets dermatologiques sur lesquels vous travaillez, ça pourrait vous être utile?
Il y a des ouvertures qui sont très très intéressantes. Et si vous étiez ici devant une plaie, non seulement on la voit, mais on la sent, cette plaie. C'est-à-dire qu'il y a des odeurs caractéristiques de plaies de Buruli, et on peut imaginer, mais c'est une hypothèse de travail, pour l'instant qui n'est pas développée, qu'on puisse aussi faire des diagnostics sur des populations, sur des communautés, grâce à l'animal. Mais c'est une hypothèse, évidemment, de travail. Et la démarche, ça serait du dépistage de masse dans les campagnes, parce que ce qui nous pose problème, c'est justement ce dépistage, les gens arrivant beaucoup trop tard, les malades arrivant beaucoup trop tard au centre, et c'est là où il y a des détersions et des mutilations qui sont très profondes sur leur peau. Si on avait recours à un animal qui pouvait détecter cette maladie, ça serait un grand plus au niveau des populations. Réussir à capter nos malades avant qu'ils développent la maladie. Parce que c'est une maladie très invalidante si on ne la traite pas. Et c'est pour ça que les gens ne se déplacent pas et on se retrouve avec des handicaps majeurs. Et ce qu'il faut aussi dire, et ce qu'il faut entendre, c'est que le Buruli, quand on l'a diagnostiqué, on donne le traitement, c'est une maladie qui va être guérie totalement. On voit, nous, sur le terrain des applications, on n'a pas encore formulé, il faudrait la faire sous la forme de projet, et pourquoi pas, cette hypothèse avec Isabelle, je pense qu'elle serait très très bien reçue.
Isabelle Fromentin, une autre piste de travail, mais sur laquelle vous réfléchissez depuis toujours, sur justement pouvoir dresser, éduquer des chiens pour faire du dépistage dans des maladies comme l'ulcère de Buruli, qui dépisté tôt se soigne, se guérit.
Alors en effet, ça serait une piste. Ce qui est super dans le travail avec Thierry qu'on vient d'entendre ou d'autres, c'est que voilà, il y a une cohérence, il y a le soin de plaie que je sais faire, il y a les échanges des deux équipes avec une grande complémentarité parce que eux, ils connaissent bien le traitement médical de l'ulcère de Buruli, de la lèpre, bien mieux que nous. Nous, on va les donner un appui sur les soins locaux, sur comment optimiser, comment accéder à certains pansements aussi qui n'ont pas forcément. Donc on est très complémentaires dans nos approches. Par contre, ils connaissent ces maladies bien mieux que nous. Alors peut-être qu'en effet, un jour, je ferai un projet avec Thierry, qui est un hôpital de Raoul Follereau.
Je trouve admirable. Oui, la Fédération contre la lèpre.
Ouais, qui maintenant, comme il y a moins de lèpre, heureusement, il s'occupe beaucoup de l'ulcère de Buruli. C'est une plaie extrêmement fréquente et mutilante en Afrique, et notamment chez les enfants. Et heureusement qu'il y a ces centres qui captent des populations assez loin pour s'en occuper. Raoul Follereau les prend complètement en charge. C'est quand même une aubaine. Hein. Ça, c'est pour inciter à mettre dans les troncs.
Parce qu'au départ, vous vouliez soigner la lèpre. Enfin, c'est quand même ça aussi qui vous a mis.
Moi, quand j'étais petite, je quittais pour Raoul Follereau. Vous voyez, et 40 ans après, j'apprécie beaucoup de voir collaborer avec le peu de temps que j'ai, mais de collaborer avec eux. Hein, c'est cohérent.
Et vous collaborez avec eux dans d'autres pays d'Afrique également. Enfin, vous êtes vraiment en lien, votre équipe, hein, vous et votre équipe, avec ces centres de soins, ces dispensaires, ces centres de traitement, à la fois au niveau des pansements.
Là, il y a eu un coup de cœur avec Poubé, parce que c'est une histoire où, depuis 10 ans, on collabore et toute l'équipe tourne. C'est ça qui est sympa. Moi, dans mon équipe, là, cette année, c'est Maxime, un des infirmiers qui parle. L'année dernière, c'est Marguerite qui est partie. Eux, ils vont apprendre. Ils vont aussi enseigner eux ce qu'ils savent sur le traitement des plaies. Et puis moi je viens. Ce qui est sympa, c'est cette collaboration entre les équipes qui enrichit tout le monde. Donc avec eux, on a eu un coup de cœur et on a un travail dans la continuité et ça se passe bien. Après, je travaille avec d'autres. Là, on est en ce moment en pleine réflexion avec MSF sur l'oncologie. On se retrouve avec la même chose.
CADOG,
oui, excusez-moi, des cancers avec CADOG à terme. Peut-être qu'en effet, on fera CADOG ensemble, c'est pas encore décidé et formalisé. Par contre, il y a les soins de plaies tumorales. Pour le coup, là, je suis complètement dans mon cœur de métier. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui va être pris trop tardivement en charge va avoir tendance à développer davantage ce type de plaie. Et donc, ce qui est sympa, c'est que finalement, on pourrait se dire, les soins de plaie sur des plaies comme ça et le diagnostic, c'est très loin. Mais finalement, dans ces thématiques, et notamment en Afrique, je me retrouve avec mes deux cœurs de métier.
Le soin, gardez l'oreille attentive à tous ceux, surtout à ceux qui en ont le plus besoin d'ailleurs de soins. Voilà un autre de vos fils conducteurs et voilà pourquoi vous aimez tant cette chanson d'Alain Souchon et Laurent Voulzy, Oiseau malin, que vous avez fait découvrir sur RFI. Oiseau malin, Souchon, Voulzy sur RFI, prenez garde à ceux qui n'ont rien, c'est votre choix. Isabelle Fromentin.
Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle me fait penser à ces populations avec qui moi je me sens bien et j'ai plaisir de travailler. Aussi peut-être à ma profession, vous l'avez vu, nos recherches elles partent vraiment du terrain, elles sont
au plus près des patients.
Au plus près, peut-être plus modeste hein, scientifiquement par essence, mais parce que on a notre métier de soins, donc on a un point de vue différent. Moi, ce que j'aime dans notre équipe, c'est qu'on a tous les mains dans le cambouis, quoi. Et je veux dire,
les médecins, les infirmières, tous, ceux qui s'occupent des chiens.
Oui, et même les chercheurs. Enfin, tout le monde.
Les chimistes, tout le monde participe à ce projet.
Oui, parce que pour les chimistes aussi, moi, je travaille avec des chimistes de grandes écoles réputées. Quelquefois, ils pourraient faire beaucoup mieux, je pense, que d'analyser. J'aurais fait analyser des nécroses de chiens, j'aurais fait sentir des nécroses de plaies, j'aurais fait sentir des crottes de chiens quand je travaillais sur comment agir sur ces mauvaises odeurs. Quel meilleur modèle qu'un caca de chien. Donc, je suis allé ramasser des crottes de chiens et j'ai mis mes solutions, je leur ai fait respirer, tout le monde a failli y avoir un malaise. N'empêche qu'ils l'ont fait, ils ont joué le jeu. Je vous dis pas que quelquefois, ils se marrent pas de mes idées saugrenues, mais voilà.
Peut-être qu'il faut être infirmière, être dans le soin pour avoir ces idées saugrenues autour de la question. Pourquoi des chiens pour détecter le cancer et jusqu'où ce projet CADOG et ce travail sur les odeurs, hein, la science comme une enquête policière pourrait nous entraîner. Nouvelle question pour vous soulevée par Claude Kirchner. Il est chercheur en sciences informatiques à INRIA et membre du comité consultatif national d'éthique. Il était récemment notre invité.
J'ai vu ce qu'elle avait fait et j'ai été vraiment impressionné par le travail qu'elle a réalisé et par la validation de son travail. Parce que, a priori, d'une certaine façon, bon, quand on est scientifique, surtout des sciences dures, on va se dire au début, j'y crois pas trop, quoi. C'est juste, est-ce que c'est. Alors, la question que je pourrais lui poser, c'est la suivante. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait du point de vue numérique, on fait des nez numériques qui sont très fins. Et donc, est-ce que, éduquer un chien, enfin, dresser un chien à faire en sorte qu'il reconnaisse ce type d'odeur, ça ne doit pas être évident. Mais ensuite, ce qui me semblerait être intéressant, c'est d'arriver à caractériser les molécules qui sont, sur lesquelles le chien réagit, et de faire en sorte qu'on ait des détecteurs qui permettent de faire en sorte que, on ait, je dirais presque chez soi, d'une certaine façon, la capacité à pouvoir mettre en œuvre des systèmes numériques de détection de telles odeurs.
Est-ce que c'est une piste à venir, Isabelle Fromentin, après les chiens, un nez numérique qui reprendrait le flair du chien? Mais encore faut-il caractériser les molécules en question.
Alors, c'est bien sûr, c'est l'avenir et c'est au départ, la piste sur laquelle on était parti avant le chien, avant qu'on découvre le travail des cynos, mais c'est pas si facile de caractériser, même s'il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Et puis il faut des appareils quand même qui, je veux pas revenir là-dessus, mais enfin qui coûtent très très cher.
Oui, or là encore, votre combat, c'est vraiment du dépistage et du soin accessible à tous, partout sur la
Terre.
Alors
il y a deux choses, il y a la technique de recherche. Pour caractériser, c'est un gros boulot, parce que pour l'instant, il y a des gens qui essayent. Je vous parlais tout à l'heure de l'équipe israélienne qui travaille sur la caractérisation des composés volatiles du cancer. Ils ont beaucoup de moyens et ça fait des années qu'ils y sont. Ils avancent, ils progressent, mais ils ne sont pas encore arrivés à le caractériser. Donc moi, ce n'est pas avec mes petits moyens et notre petit outillage qu'on allait réussir. Donc là, on a fait un partenariat avec des gens très bien outillés qui connaissent bien l'olfaction. C'est les gendarmes. Donc on va commencer un travail ensemble avec l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, grâce au colonel Touron qui nous a ouvert ses portes. Donc on amorce là pour essayer, avec leur aide, de caractériser ce qu'on appelle l'odeur olfactive du cancer. Là encore, on est dans un processus de recherche. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on ne va pas y arriver? En tout cas, on met tous les moyens dans cette collaboration pour arriver au bout. Après, vous voyez, vous caractérisez, ok, après il faut encore faire le nez. Si vous y arrivez, faire le nez électronique avec une technologie assez fine, alors on a des technologie fine, mais là, il faut qu'elle soit ultra fine.
Hein? Donc, on n'a pas fini hein, pour caractériser l'odeur des tumeurs, l'odeur du cancer.
Alors, avant que ça arrive en Afrique, je vais vous dire qu'il y a quand même un petit bout de chemin. Là, hein,
ouais, c'est ça. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui vous fait arrêter. Parce que ce qui est fascinant quand on lit votre livre, hein, Blouse blanche et poils de chien, Isabelle Fromentin, c'est que rien ne vous arrête et que vous êtes aussi à l'aise, vous continuez à être infirmière auprès de vos patients. Mmh. Pour donner des soins, que pour discuter avec les chimistes, avec les médecins, que pour obtenir des financements participatifs évidemment. Aucune montagne ne vous arrête, aucun vent contraire ne vous arrête. Un de vos modèles, je crois que c'est Sœur Emmanuelle, on comprend un peu pourquoi. Moi j'ai envie de vous en proposer un autre de modèle, c'est une voix africaine très engagée de femme, d'actrice et de chanteuse, Fatoumata Diawara, extrait de son dernier album, Fenfo. En Bambara, Fenfo, ça signifie quelque chose à dire. Fatoumata Diawara sur RFI, extrait de son dernier album, Fenfo. C'est pour vous Isabelle Fromentin qui gravissait des montagnes et supportait tous les vents contraires pour mener à bien vos recherches et vos découvertes en matière de soins infirmiers, de pansements pour plaies tumorales et de détection de cancer du sein grâce à l'odorologie canine. Autour de la question, pourquoi les chiens peuvent aussi nous aider à panser nos plaies, hein, panser peut-être PENSER autant que PANSER. Je propose un dernier éclairage Isabelle Fromentin, c'est celui du philosophe Marc Alizard qui nous invite dans son dernier essai intitulé « Chiens » au pluriel, à repenser justement notre rapport au monde en nous inspirant des chiens. Pourquoi et comment vivre comme un chien, ça pourrait être une bonne piste à suivre pour donner un peu de douceur dans notre monde de brutes. Marc Alizard et son chien au micro d'Alice Milo, un peu à rebrousse-poil.
Oui, on va sortir. Mais oui, on va sortir.
Les chiens sont joyeux. Et je pense que ce qu'on perd quand on perd un chien, c'est la joie. C'est sa joie et d'une certaine manière la joie du monde de manière générale. Et cette joie, bon, bah, c'est ce qui leur vaut précisément de passer pour des idiots, puisqu'on n'imagine pas que quand on est intelligent, on puisse être joyeux. Et on peut reprocher aux chiens, d'une certaine manière, de ne pas se révolter contre sa domestication. On pense aujourd'hui, les biologistes qui s'intéressent aux chiens, de plus en plus, pensent aujourd'hui que les chiens ont en quelque sorte fait un pacte avec l'homme il y a bien longtemps, peut-être 40 000 ans. Donc le chien n'est pas un animal que l'homme a domestiqué, c'est plutôt deux animaux qui se sont co-domestiqués ou qui ont co-évolué, qui forment une sorte d'entité indivise, mais qui s'est partagé des tâches. Ce qu'on sait, c'est que Homo sapiens a bénéficié des chiens. Le chien est cet animal qui s'est dépassé en tant qu'animal pour aller vers nous, pour aller vers la culture et donner naissance à la culture, donner naissance à quelque chose qui le dépassait et qui le protégerait. Pour moi, la leçon du chien, c'est ça, c'est que nous-mêmes, on est appelés à être des chiens, si on veut vraiment être heureux, c'est-à-dire à se soumettre à quelque chose de plus grand que nous. Et on le fait inconsciemment, je crois qu'on est protégé ontologiquement, en quelque sorte, on est protégé d'une sorte de violence du monde que le chien prend sur lui et transforme et nous restitue sous forme de tendresse.
Tendresse, joie, ça vous parle ce que vient de dire le philosophe Marc Alizard sur les chiens, Isabelle Fromentin ?
Ça me parle, oui, sur plein de choses. Ça me parle parce que là, on parle du chien détecteur, mais vous savez que maintenant, dans les EHPAD, enfin, donc les maisons de retraite, auprès des patients âgés, moi, j'aimerais beaucoup faire une étude un jour, si j'ai le temps, sur combien ça apporte aux personnes qui restent à domicile. Une personne âgée qui a un chien, elle va le sortir, elle va être plus autonome, elle a de la tendresse, ça c'est important. Et puis ça me fait écho aussi parce que vous voyez qu'Adoc c'est un projet de recherche, j'aime bien les chiens, mais là je vois bien que je suis gaga de mes chiens. Je les trouve beaux, fabuleux, quelquefois trop. Souvent le sino me dit quand il fait
vos
des tests.
Vos chiens détecteurs de
tumeurs. Oui, il me dit s'il te plaît reste un peu à l'écart parce que sinon je suis tellement croulante et gâteuse devant mes chiens qu'évidemment ils n'ont pas envie de travailler. Donc je me surprends moi-même dans cette tendresse vis-à-vis de ces chiens et c'est sympa et je pense que c'est à prendre comme ça en effet et à en profiter.
À en profiter des chiens et vous en profitez aussi dans ce projet de recherche CADOC qui avance, enfin vous ne cessez d'avancer, vous en profitez aussi du coup pour nous alerter ou nous sensibiliser à la fois aux plaies tumorales qui peuvent sentir très mauvais, donc aux odeurs, à l'équité et aux inégalités en matière de santé, de soins, de détection, etc. On a l'impression quand même que cette recherche que vous avez faite, elle est très large et qu'elle va loin. Et qu'elle va aussi loin que dans vos rêves d'enfant quand vous vouliez soigner la terre entière ou soigner les lépreux. Isabelle Fromentin.
C'est vrai que j'ai la chance un peu de pouvoir réaliser mes rêves et c'est vrai que j'ai la chance que CADOC, ben, on en parle et ça permet de faire passer plein d'autres messages, faire prendre conscience, reparler du dépistage un petit peu autrement, reparler des inégalités qui sont pas seulement entre le nord et le sud, qui sont aussi ici, on en entend avec les réfugiés et ça nous fait écho, mais il y a plein d'autres personnes. Moi, j'ai été très touchée au départ du projet par les personnes handicapées qui ont dit pour nous c'est difficile le diagnostic. Et j'avais honte parce que je n'y avais pas pensé. Parce que moi, je suis dans le cancer et c'est très vrai. Et je pense que ben voilà, ça fédère tout ça, ça fait parler des choses autrement, ça fait parler des plaies. Les plaies, c'est pas sexy, les odeurs, les mauvaises odeurs, c'est pas sexy non plus. Et pourtant, il y a bien un moment où il faut se dire les choses pour comprendre peut-être plus celui qui est à côté ou très loin et qu'on regarde pas toujours.
Merci infiniment Isabelle Fromentin d'avoir pris sur votre temps chargé, on l'a compris, pour venir en direct dans notre studio, partager toutes ces pistes de recherche sur le soin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, très inspirant, en plus plein d'humour, ce qui ne gâche rien, à lire absolument, Blouse blanche et poils de chien, comment j'ai découvert l'odeur du cancer, coécrit avec Sandra Kollender et paru aux éditions de La Martinière. Vous revenez quand vous voulez, Isabelle Fromentin, nous serons patients, vos patients peut-être. Merci.
Merci.
Autour de la question sur internet www.rfi.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI. Au plaisir de vous retrouver demain pour un autre genre de décalage. Autour de la question, comment les chiffres peuvent nous aider à penser, pourquoi tout peut être matière à philosopher, vertige assuré, avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Amis auditeurs, restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Merci de votre interactivité, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, ce sera l'heure d'un nouveau journal sur la Radio Mondiale.